ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils devraient pas y en avoir. Et puis c'est tout.
Hey, je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à feu continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Avec votre équipage habituel, Jeanne Padawan et Olivier, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda la voyante, Pierre Filantia, notre maître nageur, Vincent Turban, mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Nifle.
Bonjour à tous, il est 15h01, bienvenue sur notre paquebot Dépêchez-vous de rester jeune sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, comme toujours, le mardi avec nous de 15h à 17h. Je suis avec Olivier. Salut Olivier.
Bonjour Jeanne.
Ça va bien ?
Ça va très très bien quand je suis en mer avec vous, tout va très bien.
Vincent Turban, bonjour mon cher
bonjour
Vincent.
Bonjour Jeanne, bonjour Olivier, bonjour Jack.
Justement.
Bonjour Gaël.
Bonjour à vous, je reviens de
Jack,
loin.
On est très content de retrouver à bord sur le pont de notre
oui,
bateau.
Oui.
En convalescence sur un paquebot, c'est pas mal au soleil.
Formidable.
Formidable, il n'y a pas mieux pour se remettre sur pied. Et nous aurons aussi le post-scriptum de Mafalda en début d'émission que nous embrassons. Nous sommes aujourd'hui avec Gaëlle Buzel. Salut Gaëlle, bienvenue à bord.
Salut tout le monde.
Tu es chanteuse, guitariste et auteure-compositrice. Tu seras rejoint tout à l'heure par Frédéric Zetoun, parolier, chanteur, chroniqueur, radio, télé, etc. J'ai envie de dire.
Auteur de livres, auteur de chansons, enfin bon, il sait tout faire avec un stylo ce garçon.
L'homme à tout faire.
Exactement.
L'homme à tout faire, qui risque de prendre la place de Jack Marshall, l'homme à tout faire. Attention, défendez-vous. Nous quittons aujourd'hui Saint-Sébastien au Pays Basque et nous nous dirigeons aux States, vers le Texas, parce que j'en avais envie tout simplement. Je commence cette émission juste par un petit hommage à Naman, qui est un chanteur reggae français et qui nous a quittés à 34 ans le 7 février, voilà, des suites d'une maladie que j'appréciais beaucoup, donc... Si vous voulez l'écouter, voilà. Naman, c'est très chouette. On commence tout de suite, Capitaine Nifle, nous sommes en cabine avec le capitaine. Bonjour capitaine, pouvez-vous nous lancer s'il vous plaît le post-scriptum de Mafalda qui nous parle du mal et du bien.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans cette période confuse, je m'en vais vous lire. Aujourd'hui, deux monologues de ce cher et regretté Augusto Monterroso, auteur guatémalteco-mexicain dont je vous ai déjà lu quelques textes ici. Voici donc le monologue du mal qui sera suivi du monologue du bien. Monologue du mal. Un jour, le mal se trouva face à face avec le bien et il fut à deux doigts de le liquider pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette dispute ridicule. Mais le voyant si petit, le mal se dit « Ce ne peut être qu'une embuscade, car si je liquide le bien qui a l'air si faible, les gens vont penser que j'ai mal agi, et j'aurai tellement honte que je me ferai tout petit, et le bien ne laissera pas passer cette aubaine, et c'est lui qui me liquidera. Mais alors, les gens penseront qu'il a bien fait, car il est difficile de les écarter de leurs idées préconçues, comme quoi ce que fait le mal, c'est mal, et ce que fait le bien, c'est bien. Et voilà comment le bien s'en est encore sorti. Monologue du bien. Ce soir-là, le bien réfléchissait. Les choses ne sont pas aussi simples que le croient certains enfants et la plupart des adultes. Tout le monde sait qu'il m'arrive de me cacher derrière le mal, comme lorsque tu tombes malade et ça t'empêche de prendre l'avion, et alors l'avion s'écrase et personne n'en réchappe. Parfois, au contraire, c'est le mal qui se cache derrière moi, comme le jour où cet hypocrite d'Abel s'est fait tuer par son frère Caïn pour qu'il soit mal vu de tout le monde et qu'il ne s'en relève jamais. Les choses ne sont pas si simples. Voilà, chers auditeurs, ces petites notes de notre cher Augusto Monterroso.
Merci beaucoup, Mafalda, pour cette pensée philosophique, voilà, à vous de continuer à tergiverser sur le bien et le mal. Jack, tu voulais nous faire écouter un morceau aujourd'hui, le premier morceau de cette émission.
Un coup de cœur.
Un coup de cœur, c'est Santana.
Avec, comment on dit,
She Knows There.
Avec l'accent anglais à la perfection de notre Vincent Turban.
Ça rigole plus. Hein.
De Santana, j'espère que j'ai eu le même accent parfait que Vincent Turban.
Hein, Vincent, tu vas nous parler un peu de Santana ?
Ah, Carlos. Carlos, mais à cette époque-là, c'était Carlos de Vadip, puisqu'il venait de se convertir auprès d'un gourou religieux qui s'appelait Shrim Noy, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, il avait entamé cette période un petit peu jazz-funk, effectivement, à partir de 1972, avec les albums Caravanserai.
Triple album.
Et surtout, le fabuleux triple album Lotus. Le triple album live.
Que j'avais acquis à l'époque en vinyle. Oh,
quel chanceux.
Wow. Merci. Merci beaucoup, Jack. Jack et Vincent, nous donnons maintenant la parole à Gaël Buzel.
Si l'homme est parvenu à domestiquer le feu, une femme en France a, quant à elle, réussi à dompter le blues. Pour ce faire, elle a tout simplement mis du feu dans sa guitare, Telecaster ou autre, et a ainsi, depuis des années, enflammé de nombreuses scènes nationales et internationales. Elle est au blues rock hexagonal, ce que Robert Johnson fut à la musique américaine, une pionnière. Pour commencer, est-ce que tu peux me donner ta définition du blues, Gaëlle ?
Waouh ! Alors, déjà, bonjour tout le monde. Alors, pour moi, la définition du blues, alors, c'est vraiment, c'est les racines, en fait. C'est vraiment... je me rappelle que j'étais partie faire un voyage aux États-Unis, justement, pour comprendre un petit peu mieux ce mot blues, et pouvoir me ressourcer, et puis m'imprégner un peu de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment les racines de ce qui... les racines de la musique, de la base, parce que le hip-hop a été inspiré du blues, beaucoup de musique aussi. Et pour moi, ouais, le blues, c'est vraiment les racines d'où on vient, en fait.
Et où, es-tu allé, où es-tu allé aux États-Unis pour te ressourcer
ou... Texas.
Non. Oui, entre autres, mais oui. Alors à l'époque, c'était pas en paquebot, mais là, ça me fait plaisir de faire ce voyage-là avec vous.
C'est rare.
Oui, c'est très rare. Mais en fait, j'étais remontée, on avait fait toute la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Bien avec sûr. Bâton rouge, ouais. Et remonter pour retrouver un peu toutes ses racines. On s'est retrouvé aussi à Austin. Et puis après, on est parti un petit peu plus du côté de Nashville et tout ça. Mais du coup, ça m'a permis de pouvoir comprendre pourquoi c'est cette musique qui m'inspirait autant. En
fait. Et ce voyage initiatique, tu l'as fait à quel moment par rapport à ton premier album ?
Eh bien écoute, je l'ai fait relativement tard parce que c'est ce voyage-là qui m'a inspiré mon troisième album qui s'appelle New Days Waiting.
D'accord.
Ouais.
Donc en fait tes deux premiers albums, tu les as fait uniquement par rapport à tes connaissances, à ton
exactement,
goût, à ce,
oui,
que,
oui.
Ce que tu as eu comme culture.
Ah oui, la culture, et puis c'est la culture que j'ai eue par mes parents, donc quand on était petit, on écoutait les vinyles de Janis Joplin, les vinyles de, il y avait les Beatles, mais il y avait du Buddy Guys, en fait tout était mélangé dans cette culture qui était américaine et anglaise. Il n'y avait pas beaucoup de vinyles en français, et mes parents, ils avaient ce truc-là, c'était des gros fans hein, de la période de Woodstock, donc de tout ce qui allait avec ça. Et puis moi petit, je me rappelle, je leur piquais les vinyles pour les écouter en cachette, alors que c'était pas du tout interdit d'écouter les vinyles.
Pourquoi en cachette?
Mais je sais pas, ouais. Je trouve que j'aimais bien, c'est ce côté.
C'est le côté prohibition.
Mais on le prend, on le met sur sa platine, on l'écoute, ça crépite. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu de se dire, on avait envie, moi j'avais envie d'écouter ça toute seule en fait.
Parce que tu as connu le 33 tours en fait, le disque vinyle. Tu as connu ça, tu as grandi avec ça.
Oui, j'ai grandi avec ça. Oui, j'ai grandi avec ça et j'ai été bercée aussi surtout avec ça, puisque mes parents c'était des passionnés de musique. Mon père était musicien, mais dans un tout autre registre. À l'époque, il était batteur dans un groupe de hard rock. Mais
pas si éloigné que ça. Si tu m'avais dit batteur dans un groupe de Balmusette, j'aurais pu comprendre le grand écart.
Oui. Et puis ma mère était un peu une groupie de mon père. Et
comment s'appelait le groupe?
Alors le groupe, il m'a jamais dit comment s'appelait le groupe. Ils avaient pas de nom en fait.
Alors,
voilà.
Alors si le papa de Gaël nous écoute, il est prié d'appeler la radio.
Je pense qu'il va écouter, il va beaucoup rire. Il va beaucoup rire aussi à chaque fois. Bah oui.
Envoie-nous de suite le nom de ton groupe, qu'on passe ça à la radio.
Ah oui.
Et Monsieur Busvel.
Ah bah ils se connaissent avec ma mère depuis qu'elle a 14 ans, donc.
D'accord.
Est-ce que tu en écoutes toujours des vinyles?
Oui, moi mais j'en écoute toujours.
Toujours le même plaisir.
Ah oui, j'en ai tellement que je sais plus où les ranger. Et puis c'est surtout que maintenant, même nous, on fait des vinyles, en fait. Donc,
tu as sorti tes albums en vinyle aussi?
Oui, on en a sorti deux, en fait.
Ah,
deux en vinyle. Et non, mais il y a un côté magique. Et puis je vois ma fille, elle va avoir 2 ans. Elle adore, elle voit les vinyles. Elle est là, elle veut le mettre, elle veut appuyer sur le bouton, elle écoute. Puis ça finit trop vite parce qu'il y a 4-5 titres sur chaque face. Puis après, elle attend pour écouter, puis retourner de l'autre côté. Donc je suis contente que c'est vraiment intergénérationnel, en fait. Donc c'est cette musique qui est pure et qui vient avec... C'est la base.
Bien sûr.
C'est la base.
Est-ce qu'aux États-Unis, tu as eu l'occasion de faire de la musique là-bas,
oui.
De jouer?
Oui. Alors c'était en 2015, quand je suis partie là-bas. En fait, on était partis sur un coup de tête avec mon meilleur ami, parce que j'étais dans une période où musicalement, je ne savais plus trop où je voulais aller. Il y avait des choses que je ne comprenais plus, et j'avais besoin en fait d'aller comprendre pourquoi c'était cette musique qui m'aspirait autant en fait. Me dire, mince, j'adore le blues, j'adore la folk, j'adore tel ou tel artiste, mais je ne suis pas native de là-bas, j'ai grandi avec cette musique-là, mais j'ai pas grandi dans un contexte de vie de blues, comme les vrais bluesmen, enfin les purs bluesmen qui transcendent leur musique parce que c'est ce qu'ils ont vécu, en fait. Et du coup, d'avoir retracé tout ça, ça m'a justement permis de comprendre et de confirmer que j'aimais cette musique et c'était cette musique que je voulais défendre, en fait.
Et donc, aux États-Unis, tu as joué?
Oui, j'ai joué. Alors, j'ai joué. Alors, on a commencé au départ, on est parti par Los Angeles, pardon, et après, on est parti, on a traversé, on est parti 45 jours et on a traversé en voiture Los Angeles et on est remonté jusqu'au Canada comme ça. Et en fait, à un moment donné, on s'est perdu au Texas, à Austin. Et c'est là que j'ai eu ma plus belle rencontre, en fait.
Raconte-nous.
J'ai rencontré un musicien dans une jam, le soir, voilà. Parce qu'on faisait je faisais des petits concerts à droite, à gauche, dans des open mic, en fait, là-bas. Et puis, y avait un endroit qui s'appelait le Speakeasy, à Austin. Et puis, je joue quelques titres. Je me rappelle, j'ai même joué un titre en français. Je jouais mes compos de l'époque. Et puis là, il y a un musicien qui vient me voir et qui s'appelle David Quick, et qui me dit qu'il adore ce que je fais, tout ça. Et puis je l'entends chanter, c'était magique. Et puis on a rencontré d'autres musiciens ce soir-là. Et en fait, on a passé, à la suite de cette jam, on a passé 48 heures à jouer de la musique dans un garage.
Wow.
Et non-stop, on avait les yeux comme ça. Wow. C'était juste magique, ça m'était jamais arrivé de ma vie. En fait, en France, ça m'était jamais arrivé d'avoir une connexion comme ça, musicale, où aller toute la nuit dans le garage d'un des gars, de faire de la musique. Et puis, cette rencontre, elle a été magique parce qu'en fait, au bout de deux jours, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être rentrer où on était logé à ce moment-là. Et puis, lui nous explique qu'il n'avait pas de logement parce que c'était un musicien qui vivait de sa musique dans la rue. Et du coup c'était des univers différents qui se rencontraient. Et puis, il y a un moment donné, je joue une chanson, je crois que je jouais Selfish Game, guitare, voix. Et puis, il me dit, attends, je vais te chanter une chanson. C'est une chanson qui s'appelle No One Else. Et il me dit, j'ai écrit cette chanson il y a 15 ans, quand il a tout perdu. Parce qu'il avait un groupe de rock à l'époque, ça fonctionnait super bien pour lui. Et puis, ça lui a un peu brûlé les ailes, tout ça. Et il a tout perdu du jour au lendemain, jusqu'à sa famille en fait. Et du coup, il me dit, cette chanson, j'aimerais te l'offrir.
Waouh.
Et du coup, cette chanson, elle a été le début de l'écriture de l'album de New Days Waiting. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment je peux te promettre ça, mais cette chanson, on va la faire vivre. Et je te retrouverai et on enregistrera cette chanson ensemble au moment où on est reparti en France. Et puis, on est rentré en fin août. Et en octobre, avec mon meilleur ami, on s'est dit, allez, on retourne aux États-Unis. On retourne à Austin et on avait des amis qui étaient au Texas, à Dallas. C'était l'occasion, en fait, on allait les voir. Et puis tout le monde nous a dit, vous êtes des grands fous, vous le retrouverez jamais, parce qu'on n'avait pas de contact, pas d'email, pas de téléphone. C'était vraiment une rencontre spontanée, en fait. Et puis la magie a fait qu'on a dit, on se déballonne pas, on part pendant deux jours à Austin et on va arpenter les rues d'Austin pour le retrouver. Donc on a fait tous les cafés-concerts où il passait, tous les endroits où il busquait, les endroits où il... aux arrêts de bus, tout ça. Et puis, j'avais une seule photo, parce que ce qui avait été magique, ces 48 heures de musique qu'on avait faites, c'est que pendant 48 heures, on n'a pas sorti une seule fois le téléphone, en fait. On n'a pas... on était complètement déconnectés, en fait. Ça paraît paradoxal de dire un truc comme ça, mais... 48 heures, même nos familles nous ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 48 heures? On n'a pas une nouvelle, machin, pas une photo, rien, machin, rien posté. Non, parce qu'il y a un truc... c'était en suspens à ce moment-là et on a vécu vraiment le truc à 100%. Et puis du coup, on est retourné à Austin. Je suis toujours un peu émue quand je raconte cette histoire. Et à force de arpenter, on avait juste une photo de la soirée qu'on avait faite à la jam, la soirée jam. Et je montrais, et puis tout le monde disait, ah mais oui, c'est David et tout. On ne l'a pas vu depuis deux jours et tout. Et puis on a dit, non, mais on ne peut pas partir sans le retrouver. Ouais. Et puis, à un moment donné, on part dans la rue et puis on le voit passer avec sa guitare et on se met à hurler en traversant.
Génial.
Et sur le coup, il comprenait pas trop ce qui se passait. Il nous a reconnus. Et en fait, il est tombé à genoux. On est tombés tous à genoux tellement c'était fort de pouvoir se retrouver à ce moment-là, en fait. Et puis, entre-temps, j'avais essayé de retrouver un studio. Je parle trop,
c'est passionnant, c'est au contraire,
c'est parce que je suis percée par la houle de la mer, en fait, c'est pour ça.
On veut savoir ce qui se
passe. Et puis, entre-temps, j'avais rencontré un musicien français qui était parti vivre aux États-Unis et qui était justement à Austin et qui avait un studio d'enregistrement. Donc, on a été enregistrer cette chanson...
Avec David,
ouais.
Donc, il est sur l'album.
Elle est sur l'album, enregistrée en une prise... duo avec David.
Voilà, lui joue sur l'album.
Exactement.
Donc c'est immortalisé, c'est gravé dans le vinyle.
Oui, c'est gravé dans le vinyle. Et puis, du coup, c'était quelque chose de magique parce que même lui, ça lui a changé sa vision des choses. Et même à Austin, c'était paradoxal parce que tout le monde se demandait pourquoi une petite française recherche un busker comme David. Ouais. Et même pour lui, ça lui a ouvert entre guillemets des portes, c'est-à-dire que du coup, il a eu des dates de concerts qui sont tombées un peu partout dans Austin parce que c'était l'histoire de la petite française qui vient chercher le busker américain.
J'étais pas loin quand je parlais de Robert Johnson. Lui, il a, paraît-il, vous croisez le diable sur un carrefour.
Moi, j'ai croisé un ange.
Tu as rencontré quelqu'un qui t'as transformé une vie et ça, c'est formidable.
Alors, comme on a pu, parce qu'après, c'est vrai que par la suite, j'aurais aimé le faire venir en France pour qu'il puisse jouer avec nous, mais il n'avait pas de passeport et tout ça. C'était... Non, on est resté en contact un petit peu. On a réussi par le biais. On a réussi à ce qu'il se reconnecte aussi avec son fils et tout. Donc, il y a une très, très belle histoire qui a été connectée derrière. Et puis, mon meilleur ami. Dan Cardozo a écrit un livre là-dessus qui s'appelle No One Else, une histoire d'une chanson. Magnifique. Donc il y a un livre qui est sorti et qui est disponible partout et qui raconte justement l'histoire aussi de cette chanson-là et de cette rencontre avec David Cook. Bah,
telle que tu la racontes cette histoire, on a vraiment envie de lire le livre et pour faire une pause émotionnelle, on va écouter Your Journey.
Discover what's real. Life is filled with desire, lost in the waves, drowned out by all fears. Let passion be the only guide. Take a chance until you're satisfied. Show everyone that you can knock him down.
Busvel, Your Journey, de l'album du même nom. Et on était en train de se dire là hors antenne que vu qu'on va au Texas, c'est pas une coïncidence, je propose qu'on aille directement à Austin et qu'on aille faire un coucou à David.
Voilà. Ah bah avec plaisir.
Oui, ça,
d'ailleurs, à capitaine, propos de David, capitaine. On avait une question aussi, définition, tu disais un busker.
Oui, en fait, c'est un musicien de rue, en fait. Un musicien qui joue dans la rue.
Qui n'a pas de maison. Mais c'est Francis Lalanne, en fait. Il n'a pas de maison, il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de téléphone, en fait. Francis Lalanne est un busker.
Est un busker.
D'accord, ok. tu as fait ce voyage, donc, après avoir sorti déjà deux albums.
Oui.
Ton premier album avait une connotation davantage plus folk.
Très, très folk,
quoi,
le premier album, oui.
Davantage artisanal, acoustique.
Oui.
Et pourtant, tu avais déjà ce goût des guitares un peu saturées et lourdes.
Oui, oui, oui. Oh, j'ai toujours
c'est une question de moyens, peut-être.
Ben moi j'ai toujours adoré les guitares électriques, les voix d'écorchés vifs. Ouais, ouais. Mais en fait c'est surtout que ce premier album, en fait, moi à l'époque je bossais avec un groupe qui s'appelait Camon avec lequel on faisait de la compo. Et puis un jour j'ai joué à Coville au Souboc. Voilà, c'est là où tout a démarré hein, vraiment pour moi. C'est vraiment le lieu qui a fait que ma carrière a commencé là-bas. On jouait là-bas et puis le même mois il y avait Neil Black. Donc musicien texan qui vit en France, qui était programmé. Mmh. Et puis du coup, ben, on a sympathisé. À l'époque, on était en contact par MySpace. Wow. Donc ça nous, ça nous rajeunit pas tout ça. Et puis on est rentré en contact comme ça. Et puis il m'a dit, écoute, j'aimerais travailler avec toi. Est-ce que t'as des chansons où t'es toute seule guitare voix et viens, on se lance, on fait des titres ensemble. Et moi, alors carrément, parce que j'adorais ce qu'il fait, et j'adore toujours ce qu'il fait parce qu'on travaille toujours ensemble. Et puis la collaboration s'est lancée comme ça. On avait 4-5 titres. Donc on s'est vu dans un studio à Beaudonvilliers du côté de Reims pour enregistrer. Et puis le soir, quand on rentrait à l'hôtel, on se mettait dans des salles de réunion, on écrivait d'autres chansons. Et en fait, on a fini l'album comme ça.
Et d'ailleurs,
dans une salle de réunion d'hôtel.
Exactement.
et d'ailleurs, l'album s'ouvre avec un duo.
L'album, il s'appelle Yesterday Shadow. Alors, il y a un duo dessus. Alors, je ne sais plus dans quel ordre elles sont les chansons.
Si, le premier duo, c'est None of Us Are Free.
Ah oui. Alors oui. Mais oui, sur la version digitale, sur l'album, c'est pas le premier morceau qui est sur l'album. Ah, si. Bah, oui. Oh, si, peut-être. Et ça fait longtemps.
Je ne sais plus. 2012.
Non,
2012.
Mais ça tangue sur le bateau. Là, je perds les boules. Hein.
2012.
Oui, 2012. Non, t'as raison. Oui, None of Us Are Free, et qui est un morceau de Solomon Burke. Et c'est vrai que on l'a fait. Oui, on l'a fait en duo. Et cette chanson n'était pas du tout prévu au départ sur l'album. Et Neil a dit, il faudrait qu'on fasse un cover. Et puis on fait cette reprise. Et puis moi j'ai dit, mais j'adore cette chanson, j'adore Solomon Burke. Enfin, c'était ça représentait les Boy Blinds d'Alabama, pardon. Et puis c'était génial de pouvoir faire ce morceau-là ensemble.
Bah, il a eu une belle inspiration que de vouloir ajouter ce morceau qui ouvre magistralement ce premier album. En fait.
Oui, et dont tu sais beaucoup plus de choses que moi sur l'ordre des chansons. Oh là là.
Le titre de tes albums aussi, ce que je remarque, il y a Yesterday Shadow, l'ombre d'hier, et puis New Days Waiting. Donc
oui, parce que
dans le passé, dans le futur, dans la mélancolie. Dans
en fait, il y a souvent il y a un fil conducteur en fait sur tous les albums. Qui sont surtout pour moi en fait, mais c'est vrai que les chansons, à chaque fois on a la première chanson c'est Yesterday Shadow, sur l'album Black to Blue c'est Selfish Game, la suite de Selfish Game c'est la chanson New Days Waiting, et ça raconte un peu une histoire de choses que j'ai vécues en fait, et j'ai mis ça dans, ça me fait mon fil conducteur en fait sur mes albums. Voilà.
Dans ce premier album j'aime tout particulièrement Little Sunshine. Voilà,
oh, sur ce merci. Premier album.
J'adore cette chanson. En courant ce matin, j'écoutais ça et je l'ai mise en boucle et j'ai couru plus vite. Voilà, c'est mon coup de cœur à moi, c'est mon coup de cœur perso. Sur le premier album de Gaël Buzvel, vous pouvez écouter Little Sunshine en boucle. Ça sera du bonheur. Tu as toujours écrit en français. En anglais, pardon.
Alors,
je suis troublée par ce que je viens de dire.
Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup écrit en français avant. D'accord. Mais pour d'autres artistes, pour une comédie musicale à l'époque. Et
laquelle?
Ça s'appelait Couleur d'amour, en fait.
Oh, voilà. C'est mignon.
C'était une petite comédie musicale qui n'a pas vu le jour plus que ça, mais ça m'avait fait beaucoup plaisir de pouvoir écrire là-dessus. En fait, j'ai été toujours inspirée par la langue anglaise. Parce que j'ai toujours écouté de la musique de cette façon-là, et j'ai jamais été fermée moi à chanter en français, mais j'ai jamais trouvé les bons mots à faire sonner en français pour ce style de musique. Mm-hmm. J'arrive à écrire pour les autres, mais pour moi, je n'arrive pas à écrire en français en fait.
Ah, c'est amusant ça.
C'est pas ta langue.
Ben, c'est bizarre parce que je suis à l'aise avec la langue française et c'est une langue qui est magnifique, mais je cherche toujours comment pouvoir faire sonner ça. J'ai pas envie de chanter en français juste pour chanter en français en fait. Moi, quand je chante, il faut que ça m'anime, que ça me transperce, j'ai envie de mettre mes tripes sur la table, et du coup voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête, donc ça met longtemps à mûrir. Mais sinon oui, c'est plus la langue anglaise qui a pris le dessus par rapport à mes inspirations et les gens avec qui je travaille.
Tu as évolué aussi dans tes collaborations sur les quatre albums, c'est-à-dire qu'au début, sur le premier album, tu étais principalement autrice, compositrice de toutes les chansons, et là, sur le dernier album, le quatrième, le quatrième studio, tu as fait davantage de collaborations à l'écriture. Donc pourquoi ne pas envisager un jour une collaboration d'écriture en français ?
Eh bien écoute, j'y pense.
Deuxième annonce que nous passons sur cette antenne.
Non, j'y pense, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a eu des collaborations parce que j'ai rencontré des gens fabuleux, mon équipe, et c'est des gens qui sont hyper riches musicalement, qui ont plein d'idées, qui ont des choses à dire aussi, et qui me plaisent énormément, et c'est pour ça que maintenant je collabore énormément avec mon équipe musicale. Sur les albums.
Donc tu n'es pas du tout fermée à...
Ah, pas du tout. Ouais, voilà.
C'est et pas puis un
choix. Je travaille aussi avec une autrice, une parolière américaine, mm-hmm. avec qui je travaille depuis mon deuxième album et j'adore ces collaborations-là. Donc elle s'appelle Angela Randall. Et puis pour moi, c'est enrichissant en fait. J'ai envie d'avancer, de m'enrichir des échanges en fait avec les autres et la musique, elle nous rassemble pour ça.
Juste pour compléter le propos sur la langue française, c'est que sur le live à Abbey Road, tu as repris le tandem de Vanessa Paradis, Roda Gilles-Gainsbourg, et ça claque.
Ah merci, c'est une chanson que j'adore en fait. J'adore cette chanson.
Et en entendant ce titre-là, je me suis dit, mais pourquoi elle ne fait pas tout un album en français? Parce que...
Le premier à me dire ça.
J'ai la chance de l'entendre tout à l'heure.
Peut-être.
En attendant...
Allez, on écoute Razor's Edge.
We coming to now that the morning song has faded in the garden we once loved lies far behind. Then so smart but never wise, now you are running out of time.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
15h35 sur notre paquebot, dépêchez-vous de rester jeune, et nous venons d'entendre Razor's Edge de Gaël Busvel qui est avec nous sur le fil du rasoir.
Oui,
est-ce que,
est-ce que
quand on est dans, dans cette presque, pourrait-on dire, niche musicale en France, qui est le blues rock, est-ce que justement on n'est pas sur le fil du rasoir? Je parle juste par rapport aux médias français qui auraient tendance plutôt à passer tout ce qui sera plutôt musique urbaine et qui sera chanté plutôt en français.
Alors, il y a une dans cette niche du blues. Alors, par contre, il y a toute la presse indépendante, toutes les radios indépendantes locales qui soutiennent énormément, énormément les artistes indépendants de blues et les artistes français du milieu du blues. Après, le côté plus médiatique, c'est vrai que on est français, on chante en anglais, on joue dans la cour des grands avec les Américains. Donc, si on sort un album en même temps que un artiste de renommée américaine, forcément, on ne sera pas prioritaire. Après, des fois, il peut y avoir des coups de cœur. Comme je disais en antenne, on a des radios comme WFM qui nous ont soutenus à un moment donné. Et puis énormément Georges Lang sur RTL. Donc, il y a quand même des belles opportunités aussi. Et puis d'autres portes qui sont beaucoup plus difficiles à ouvrir ou à entre-ouvrir dans un premier temps. Donc,
est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand on est artiste indépendant, on n'est pas obligé de se conformer à la norme, c'est-à-dire travailler énormément avec les réseaux sociaux, faire des petites vidéos, sortir des titres beaucoup plus souvent? Quand je vois les gens qui font du rap, ils sortent un titre toutes les deux semaines.
Sur MySpace, hein, en fait.
C'est mieux si c'est sur MySpace.
C'était bien plus simple à l'époque, on mettait trois titres en ligne et la carrière était en place.
Exactement.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a changé. Moi, je le vois depuis qu'on a fait notre premier album en 2011, où il n'y avait pas trop, on n'était pas beaucoup de groupes à faire ça au départ, et puis les réseaux, c'était pas encore ça. Mais je vois, moi, quand il y a eu l'arrivée de Facebook, c'est comme ça que ma musique elle s'est fait connaître quand même, et via YouTube. Et du coup, on va pas cracher sur les réseaux sociaux non plus. Mais c'est vrai que là, ça a pris une ampleur où moi, j'ai l'impression d'être un petit peu dépassée aussi. Hein. Tout va tellement vite. Il faut faire du rendement musical. Et nous, on essaye de faire plus de la qualité musicale, de prendre le temps de faire des morceaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a changé, en fait. La façon de communiquer, elle a changé. Les réseaux sociaux, c'est très important. Parce que tout passe par là, en fait, même à la place de la presse écrite, des fois. Hein. C'est ça qui... Ça fait peur aussi en même temps.
Tout à fait. Exactement. La presse écrite
est sur les réseaux.
Exactement, oui. Donc c'est vrai que maintenant, oui, il faut créer davantage, sortir des titres beaucoup plus souvent. J'ai l'impression que ça change. Voilà, d'habitude, on sort un album tous les deux ans. Et puis là, maintenant, si on veut sortir un album, il faut peut-être sortir des titres en priorité avant de sortir l'album.
Est-ce que c'est faisable?
Tout est faisable.
De garder, enfin de se soumettre à ce rythme-là, en termes de création aussi.
Oui, après, il faut tant que ça reste authentique. Nous, c'est ce qu'on essaye de défendre. Tant que ça reste authentique et puis tant que ça reste la musique qu'on a envie de défendre, je pense que c'est possible. Est possible.
est-ce que c'est facile aujourd'hui de produire un album de blues en France?
Alors, je sais que moi, j'ai eu la chance, sur 4 albums, il y en a 3 ont été financés par des sites participatifs, parce qu'on a une fanbase, je dis « on », parce que je parle
au nom de l'équipe
aussi, parce que ça fait 14 ans que j'ai la même équipe de musiciens qui m'accompagnent, et ça c'est quelque chose que je préserve énormément, et c'est vrai qu'on a des fans qui sont là depuis le premier album, qui nous suivent, qui sont devenus même des amis, et c'est vrai que c'est grâce à tous ces gens qui soutiennent la musique indépendante, tous ces gens qui sont là, tous ces gens qui nous ont aidés à précommander des albums pour qu'on les finance, c'est grâce à ces gens-là qu'on existe, en fait. Donc je leur dis merci, pour ceux qui sont derrière, derrière le poste, à nous écouter, parce que je pense que sans eux, je n'existerais pas de cette façon-là, en fait.
Tu m'as dit que tu avais rompu, ou disons que tu as mis un terme à ton contrat avec ta maison de disques, c'est ça?
Alors j'avais un contrat de licence en fait sur mon dernier album. D'accord. Et puis du coup on a arrêté, on est restés tous en bon terme, mais on a arrêté la collaboration et on reprend le chemin de l'indépendance à 100%.
Donc
en fait.
Tu redeviens une artisane qui va faire son prochain album grâce au participatif.
Le dernier album qui était signé en licence avait été réalisé de cette façon-là. J'étais productrice de l'album. Okay. On était... On avait tout géré sur cet album-là, mais c'était pour la distribution, la promotion qu'on avait travaillé avec ce label-là. Mmh. Et puis là, oui, on revient à des choses qui sont un peu plus, plus indées.
Est-ce que le disque, finalement, n'est pas presque plus qu'un support de communication, puisque de toute façon, tu as, comme tu l'as dit, une communauté qui te suit, tu as un public fidèle, qui est disque ou pas disque, qui est réseaux sociaux ou pas, est-ce que les gens sont là quand tu joues ?
Oui, ils sont présents, ils sont là, et par contre, c'est vrai qu'on essaye quand même, par rapport au style de musique qu'on fait, on essaye quand même de défendre l'objet musical, le CD, le vinyle, parce que c'est arrivé hein, qu'on nous demande si on vendait pas des clés USB à la fin des concerts.
Waouh.
Et du coup, parce qu'on me dit, dans les voitures, il n'y a plus ça, les nouveaux ordinateurs, les ordinateurs portables, il n'y a plus, de lecteurs disques. Donc c'est vrai qu'on est obligé de penser à plein de choses, mais en même temps, on a l'impression que si on continue de soutenir ça, on va peut-être continuer à défendre le disque, parce que nous, on a un public qui achète encore des CD, des vinyles. Et puis, c'est gratifiant d'avoir son album, une fois qu'on a enregistré tout ça, de l'avoir en support dans les mains. C'est vrai que tout change aujourd'hui, tout va trop vite. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un album avec le petit livret de paroles à l'intérieur. Ça, je l'avais réalisé sur mon deuxième album. Et quand j'ai eu ça dans les mains, j'avais l'impression d'avoir...
C'est un aboutissement.
J'avais l'impression d'être comme Tina Turner, de sortir des albums avec le petit leaflet qui a les paroles dedans. Et pour moi, c'était un rêve au départ. Ouais. Et je me dis, même si aujourd'hui, la musique, elle est pensée différemment... J'ai pas envie d'oublier ça, parce qu'il y a quand même aussi des producteurs de spectacles, des programmateurs de toute cette musique qui aussi veulent continuer de défendre cette musique-là, et cette musique, elle existe aussi grâce à l'objet. Souvent, les gens, ils vont découvrir ce qu'on fait, pas par la radio ou pas sur un concert, mais parce qu'ils sont tombés sur un album, parce que quelqu'un leur a offert. Et puis, c'est comme ça que nous, dans cette petite niche du blues, mais qui est très riche musicalement avec tous les artistes qui existent, de se faire connaître, en fait.
Ok. On fait un petit morceau live ?
Bah oui, Sigaël.
Ta guitare est accordée ?
Oui.
Allez,
oui.
Elle
a pris le soleil entre deux, mais.
C'est ça. On écoute Jalousie.
C'est un morceau de Frankie Muller. It cuts me deep. And it cuts me wide. It's good rock feeling. I get inside, and I blame you, that it's really me, countering myself of jealousy, when I'm away, I knew I told, I don't believe, you on your own. This is my foolish insecurity, countering myself of jealousy, jealousy. I stick a smirk, it's in my veins, it's in my blood. Jealousy is plain to see, and I love you so much more than you love me. It gets me so I can't sleep at night. I want the flow in the pale moonlight, and I blame you. Oh, you know, it's really me, countering myself of jealousy, jealousy. I stick a smirk, it's in my veins, it's in my blood, jealousy. It's plain to see.
so much more than you love, than you love me. Yeah, jealousy is plain to see, and I love you so much more than you love, than you love me. Yeah, jealousy is plain to see, and I love you so much more than you love me, than you love me, than you ever love me.
Magnifique, Gaëlle
Plisbel,
Jalousie, sur notre tag-board, on a de la chance d'avoir des artistes live.
Extra.
Merci.
Il faut te voir sur scène, il faut l'avoir bougé, Gaëlle, vous ne la voyez pas, mais il y a une énergie de dingue.
Merci, c'est la première fois que je joue et que ça tangue en même temps. Hein.
Ouais. En plus. Tu t'en es très bien sorti, bravo. Aujourd'hui, on a en France un sommet consacré à l'intelligence artificielle qui fait énormément peur à tous nos amis créateurs, y compris les musiciens. Comment est-ce que tu abordes cette évolution technologique, si toutefois tu abordes cette évolution technologique ?
Bah écoute, c'est vrai qu'on est tous au courant de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, et je pense que en tant qu'artiste, ça nous fait super peur. C'est parce que bon, pour le moment, on voit un peu comment les choses évoluent, toutes les choses qui sont possibles de faire, les titres qui sont créés de cette façon-là. Mais on voit pas forcément vers où ça va tout ça. Et je sais pas vraiment quoi en penser, à part de me dire que ça me fait peur. Parce que, récemment, j'ai lu un article sur Spotify qui justement essayait d'intégrer des morceaux de l'intelligence artificielle pour diminuer le reversement des droits aux artistes. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Ça me fait terriblement peur, en fait. Parce que notre métier qu'on a connu même il y a 14 ans, et pourtant ceux qui l'ont connu bien avant, hein, moi ça fait 14 ans que je produis mes albums. Et avant, on se posait pas cette question-là. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mince, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Pour tous ces artistes-là, en fait.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'approcher l'outil, une intelligence artificielle, pour voir un peu ce qui pouvait en sortir?
Alors,
est-ce que ça peut t'aider ou pas?
On nous a montré des choses. Après, je préfère m'interdire à ce genre de choses. Je pense que je suis un peu trop à l'ancienne. Se dire, non, on fait les chansons, on les écrit. Tout ça parce qu'il y a un moment donné, si on demande à un robot d'écrire une chanson pour nous... Bah, il peut écrire des très belles chansons, hein, je pense. Hein. Il y a des tests qui sont faits. Je crois que la dernière fois, c'était mon bassiste. Il a dit, j'ai testé. Je lui ai dit, écris-moi un poème sur le beau temps, les arbres et puis des jolis papillons. Il a sorti un truc qui était magnifique. Après, c'est de savoir, nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on veut partager aux gens, qu'est-ce qu'on veut leur raconter. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle génération d'artistes qui va fonctionner de cette façon-là, en fait.
Sur de l'idée, du coup, du concept et,
bah, je pense que ça marche déjà, en fait. Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont diffusées, même en radio, grâce à l'intelligence artificielle, en fait. Donc, je sais qu'il y a eu des émissions où ils reprenaient... alors, Elvis, s'il rencontrait, Paul McCartney, s'il faisait un duo, qu'est-ce que ça ferait? Et des featuring qui prennent de la place sur les heures d'écoute de radio et qui ne diffusent pas d'autres enfin, d'artistes qui ont... vraiment créer une chanson. Enfin, c'est difficile d'en parler encore parce que je pense que tout arrive avec l'intelligence, voilà, artificielle. Ouais. Et puis, moi j'ai l'impression que je suis larguée, en fait. Non, mais pour parler honnêtement, je tout est allé tellement vite ces dernières années. Ouais. Avant le Covid, il y avait encore toute cette magie qui passait de tout ce qui était organique de la musique. Et puis là, on passe dans une autre ère où je maîtrise pas du tout ça, en fait. J'ai l'impression de parler comme une
de toute façon
comme une ancienne. Oui, non, mais c'est très étrange en fait de dire ça. Mais
de toute façon, on peut considérer cette évolution technologique à l'aune de ce qu'on a connu à l'époque de la photographie, où on a pensé que la peinture allait disparaître. Oui. Les deux aujourd'hui cohabitent très très bien.
Oui, oui.
La télé, le cinéma, exactement. Toutes ces évolutions là. À chaque fois, on a dit oh, ça va faire disparaître tel art ou telle pratique, et en fait, tout finit par cohabiter. Donc, je pense que de toute façon, pour jouer le blues, il faudra toujours une guitare et une chanteuse.
Et on s'adapte de toute façon, parce qu'on voit l'intelligence artificielle à des choses très positives dans le milieu médical, par exemple. Il y a des choses où, voilà, moi je parle juste pour par rapport à la musique, par rapport à mon approche de la musique, de la création. Et c'est vrai que peut-être qu'un jour on sera amené à pas avoir le choix et de se dire que bah, c'est de cette façon-là qu'il faudra peut-être collaborer, travailler. Enfin, je sais pas. Pour le moment, je suis complètement fermée à ça. Mais je me dis que bon, il va falloir que se poser la question et de se dire mince.
Je voulais te demander si tu parlais de la médecine, par exemple, est-ce que dans les métiers artistiques, il y a cet aspect où on peut se dire il y a des choses qui nous font chier. Et c'est très bien qu'on ait une IA maintenant qui s'en occupe, quoi. Il y a plein de tâches du quotidien qui ont été remplacées, enfin, la machine a pris le. Et on est content en disant, par contre, faut pas que ça dépasse trop. Est-ce que dans l'artistique, ça, on a cette marge de manœuvre où on se dit, ça me saoule, et finalement, la machine le fera très bien, et ça n'enlève pas quelque chose, ou est-ce qu'on rentre tout de suite? Parce que ça, l'impression qu'on a tous, c'est de se dire, dès qu'on enlève un petit bout de la création, en fait, ça se vide de son sens. Ou est-ce qu'on se dit, tiens, un petit drum en fond, comme ça, répétitif, nul, en
fait, j'ai un très très bon batteur, donc je préférerais que ce soit lui qui le crée, qu'il le fasse, plutôt que...
Je me fais un peu l'avocat du diable, donc, mais est-ce qu'il y a une marge de manœuvre
technique, on va dire, presque. Je comprends tout à fait, c'est comme avec l'arrivée de plein de choses, hein. Je vois, il y a plein de titres, on parlait même, enfin, l'autotune, tout ça, enfin, oui, c'est des choses qui nous, on est en mode, non, nous, on veut pas utiliser ça et tout, puis même Paul McCartney a utilisé ça parce que c'était au goût du jour de l'utiliser.
Oui.
Donc je pense qu'il y a un moment donné, il faut que, quoi qu'il arrive, c'est des modes, et puis il va falloir qu'on s'ouvre. Là, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu plus qu'une mode. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui va
s'installer durablement.
Qui va s'installer dans le quotidien des gens pour beaucoup de choses, en fait. Je le vois même à l'école pour les enfants et tout ça. Enfin, maintenant, ça fait partie intégrante de l'éducation scolaire, en fait.
Oui.
Donc, j'ai l'impression que je tourne en rond dans ce que je vous dis, parce que je sais pas quel mot utiliser pour ça.
La musique que toi, tu fais, telle que nous, on l'aime et telle qu'on la connaît depuis des années, une centaine d'années qu'existe le blues, ne nous semble pas avoir besoin de cette nouvelle technologie pour être encore meilleure qu'elle ne l'est déjà.
Oui, oui, oui.
Surtout, on était très contents de t'avoir en live. Et ça, on n'aurait pas changé pour une IA, une Gaëlle IA.
Exactement.
Alors, justement, c'était pas moi qui chantais.
Je voulais vous le dire. Est-ce que tu peux nous dire un mot avant qu'on écoute un dernier morceau de ton album en préparation, qui devrait être là l'année prochaine?
Alors, on y travaille. En fait, on a c'est marrant pour l'anecdote, on a maquetté 19 chansons, je crois, l'année dernière. Et puis là, on repart aussi sur des choses où je me laisse un peu de temps pour réfléchir pour ces cinquième album. Parce que le dernier, c'était un double album. J'ai envie de revenir à des choses qui, comment dire, on y travaille. Voilà, je suis un peu perdue. Non, je suis un peu perdue parce que j'ai envie de faire plein de choses en même temps, et je sais qu'il faut que je me canalise. Parce que j'ai envie de faire plein de choses sur cet album. Il faut faire un choix sur les morceaux qu'on compose. J'ai envie de faire des collaborations, des nouvelles collaborations. Donc, en fait, là, depuis le début de l'année, je me remets à me projeter pour cet album-là. J'ai envie que ce soit un album qui soit un petit peu différent, mais qui reste du Gaël Boswell, avec toute mon équipe. Mais j'ai encore envie de passer une étape au-dessus. Donc je me dis...
On t'amène au Texas, tu vas pouvoir faire des rencontres.
Il y a encore plein d'états à faire pour écrire des chansons.
On écoute un dernier morceau qui s'appelle Last Day.
Ouais.
Counting across my mind, I'm fading.
Wednesday, Gaëlle Buswell, du coup, j'ai prononcé ton nom mal pendant toute l'émission, et c'est sur cette chanson que Frédéric Zetoun nous a rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, comment allez-vous?
On va très bien, on est très heureux de te retrouver.
Moi, je suis ravi d'être là dans cette ambiance torride.
On est sur notre bateau en direction du Texas.
Du Texas.
Voilà.
Ce que je viens d'entendre musicalement, c'est carrément.
On est raccord.
C'est vraiment top.
Gaëlle, tu es ce soir au Café de la Danse, à Paris.
Oui.
Donc tu vas bientôt, on a préparé un petit paddle pour que tu y ailles directement.
Exactement, oui. La combinaison et tout va bien, ouais, je suis prête.
Voilà, dès que tu arrives sur les côtes du Finistère, l'hélico sera là pour toi. On était très heureux de t'avoir avec nous.
C'était un bonheur.
Bah, merci. Un moi aussi, très très heureuse d'être avec vous.
On prend rendez-vous pour l'année prochaine.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ça marche.
En
merci
plus,
à tous.
Le Café de la Danse, c'est une salle mythique, c'est une salle super. C'est la première fois que tu
Non, non, non. Là, je fais la première partie de Gigi Gray and the Mode Fro. Mmh. Et sinon, non, on a fait toutes nos sorties d'albums là-bas à chaque fois.
C'est génial. Ouais,
j'adore cette salle.
Fred a chanté plusieurs fois déjà au Café de la Danse aussi.
Il faudra qu'on s'y retrouve là-bas ensemble alors.
Avec grand plaisir.
Un duo. Tu sais qu'en préparant l'émission, je me suis dit que Gaëlle, toi. Mais oui, mais parce qu'en fait, vous êtes des bluesman woman tous les deux dans votre genre. Parce que toi, t'es un blues rock, Gaëlle, mais je trouve que Fred, toi, t'as un côté bluesman.
Bien caché alors.
Mais ouais, mais je trouve qu'il y a un côté blues chez toi.
Pourquoi
On en parlera tout à l'heure.
Il est bientôt 16h sur notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune et vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Olivier, tu as fait une rencontre, et pas
oui.
des moindres.
Pas des moindres, c'était tout simplement, il y a quelques jours, je suis allé rencontrer Hugo Frey. À l'occasion de la sortie du film Un parfait inconnu, biopic consacré, comme tout le monde le sait, à Bob Dylan, Universal a eu la bonne idée d'éditer un coffret regroupant sur 5 CD l'intégrale du travail d'Hugo autour de l'œuvre du prix Nobel de littérature. Donc j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, mais pour un autre projet, et j'en ai profité pour lui poser quelques questions, et tout d'abord, tout simplement pour savoir... Pourquoi il a voulu traduire Bob Dylan ?
J'ai traduit Bob Dylan parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais j'étais fasciné par sa façon de chanter, par le son de sa voix, la façon de jouer l'harmonica et la guitare. Mais la seule chose qui me manquait, c'était qu'est-ce qu'il raconte ? Alors évidemment, j'ai pris le dictionnaire, j'ai essayé de comprendre, mais c'était très difficile parce qu'il a un langage et puis une façon... de chanter, qui fait qu'on ne comprenait pas tout. Heureusement, j'ai eu un cousin qui était américain, le mari d'une de mes cousines, qui m'a traduit les chansons. Et quand j'entendais l'histoire qui avait inspiré ce poète, je n'avais qu'une idée, c'était de transmettre le message de cette histoire. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas être un traducteur... Je suis pas un traducteur robot. J'essaye de transmettre le message dans la cadence du rythme. Il faut donc qu'il y ait le nombre de pieds. S'il y a 8 pieds en anglais, il faut qu'il y en ait 8 en français.
Alors, au-delà de la métrique, j'ai voulu savoir un petit peu plus sur sa méthode de travail et les difficultés qu'il a pu rencontrer au moment de traduire certains textes.
Je parlais de Like a Rolling Stone. J'ai voulu absolument enregistrer cette chanson dans un disque consacré à Dylan. Et je me suis attaqué à cette chanson culte et j'y arrivais pas. Les couplets, c'est facile, parce que c'est l'histoire d'une fille qui va à l'université, qui est élégante, etc. Et puis on voit qu'elle commence à virer, ça tourne mal. L'histoire est facile. Mais ce qui était difficile, c'était la phrase que je dis, how does it feel? Qu'est-ce que tu éprouves? Est-ce que tu peux mettre le mot ouvre, le son ouvre à la place du son il? Ma réponse est non. Alors, j'ai abandonné la chanson après avoir cherché pendant un ou deux mois. Et puis, les années ont passé. Et puis, un jour, par hasard, je montais la rue Pigalle pour aller acheter des cordes de guitare. Et à un moment donné, j'ai vu sous la pluie des gens qui faisaient la queue. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Alors je monte. Et à un moment donné, je regarde. Ah, c'est pas un magasin. C'est la NPE. L'agence pour l'emploi. Et le mot fil apparaît. Qu'est-ce que c'est que cette file de malheureux? Où vont ces files? Et je, par principe, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas, peut-être même pas de maison. Mais j'ai donc écrit presque plus de 60 pages pour arriver à trouver cette phrase.
Je revois ce temps quand belle au vent tu jetais en riant au mendiant quelques sous. On te disait garde petit, tu vas trop vite, tu nous prenais tous pour oui des fous. Et te moquer des paumés, ça t'amusait. Tu parles moins qu'hier. Et tu fais bien moins la pierre. Quand tu pointes à la cantine le cœur, en est-il? Mais tu as passé tes études à rêver, à te griser. Là-bas, personne n'a su t'enseigner à vivre la rue. Aujourd'hui, tu te sens nu et perdu. Tu disais, moi, jamais compromise. Avec ces vagabonds, mes surprises-là, tu réalises. Ah non, qu'ils ne changent pas que. Tu vois leurs yeux défaits comme des valises. Et quand tu leur proposes un petit deal, tendre et fragile.
Comme des pierres qui roulent, une adaptation de Like a Rolling Stone interprétée par Hugo Frey. Et il faut quand même rendre à Pierre Delanoë ce qui lui appartient, c'est que Hugues a soit traduit et adapté Bob Dylan, mais sans Pierre Delanoë, il n'aurait sans doute pas atteint ce degré de qualité.
C'est ton travail à quatre mains.
Exactement. Et je rappelle donc qu'il y a toujours le biopic au cinéma pour ceux qui aiment Dylan et le coffret qui est toujours depuis le 25 janvier dans le commerce.
Il paraît que Timothée, j'ai pas vu le film, mais que Timothée Chalamet a fait un travail assez exceptionnel.
Il travaille dessus depuis 2019, je crois.
Il a eu le temps de se préparer. La gestuelle, tout.
Exactement. J'ai lu la critique de Charles Lélicouture sur le film. Il ne tarit pas d'éloges sur Timothée Chalamet qui fait, paraît-il, un très bon Bob Dylan. Je n'ai pas encore vu le film, je vais y aller très rapidement et on en parlera dans 15
jours. On va tous y aller.
Tu l'as vu, Fred le...
Non, je vais y aller avec toi.
Ok, bon, on y va ensemble. Et Gaël, tu as vu?
Pas encore.
Bon, on y va ensemble.
Allez, on y va tous ensemble. Allez. sortie groupe.
Sortie scolaire.
C'est ça.
Tous ensemble. Il est 16h07 et c'est à Vincent Turban que je donne la parole, notre mélomane invétéré. Et tu nous parles de Donny Hathaway.
Absolument. Dans la série Les Destins Brisés, je vais évoquer le parcours formidable de Donny Hathaway, le prince tourmenté de la soul music. Réalisation Guillaume Martel, alias Capitaine Nifle. 49e plus grand chanteur de tous les temps suite à un classement publié par Rolling Stone en 2010. Source d'inspiration pour Alia, Common, George Benson, Justin Timberlake ou Raoul Meadon, qui déclare à son sujet « Le plus puissant chanteur de soul qui ait jamais existé, à la technique vocale comparable à un chanteur classique, Donny Hathaway est un monument précieux de la soul music à l'ascension fulgurante, mais au destin tragique. » Élevé par sa grand-mère chanteuse de gospel, Martha Cromwell, Donny Edward Hathaway voit le jour le 1er octobre 1945 à Chicago, Illinois. Initié au piano et au chant classique dès l'âge de 3 ans, son aisance et sa maîtrise lui permettront d'intégrer la prestigieuse Howard University of Washington, surnommée Black Harvard, section Beaux-Arts. Donny Hathaway fait la connaissance de personnes qui compteront autant sur le plan personnel que musical, Carla Thomas, Rick Powell et Leroy Hudson. Nous sommes en 1963 et Donny est fortement sollicité pour ses qualités de pianiste-arrangeur. Ainsi, Hathaway finit par être embauché chez Twinat Records, propriété de Seal Johnson à partir de 1967, où il accompagne The Staple Singers, Aretha Franklin, Little Milton, Jerry Butler ou Curtis Mayfield. En 1969, Hathaway passe de l'ombre à la lumière en lançant sa carrière d'abord en duo avec June Conquest sur I Thank You Baby, puis en solo lorsque Jerry Wexler d'Atlantic Records le recrute sur recommandation du saxophoniste King Curtis. Signé sur Atco, Everything is Everything en 1970 est un opus créatif où se télescopent gospel, jazz et soul, le tout oscillant entre souplesse et nouveauté. La plage la plus mémorable et la plus percutante, The Ghetto. Guidé par une basse élastique, un piano Wurlitzer prédominant et un tapis de percussion signé Master Henry Gibson, percussionniste de Curtis Mayfield. Après ce galop d'essai prometteur, un nouveau 33 tours éponyme voit le jour en 1971, date à laquelle Wexler associe le chanteur à Roberta Flack. Combinaison gagnante, le duo est en pleine complémentarité artistique et musicale, le recueil Roberta Flack and Donis Hathaway est une des plus belles réussites commerciales de l'année 1972. Mais tout ça n'est rien à côté de la bombe enregistrée et captée pour la face A au Troubadour à Hollywood et pour la face B au Bitter End à New York. Donny Hathaway Live est considéré comme un des 40 meilleurs albums live de l'histoire. Mention spéciale et personnelle au bassiste Willie Weeks qui délivre des lignes de basse de très haute facture. Au sommet de son art, Donny Hathaway multiplie les projets en signant deux bandes originales, l'une pour le cinéma, Comeback Charleston Blue, l'autre pour la télévision, thème de la série Maude. Mais paradoxalement, alors que tout semble aller pour le mieux, sa vie prend un tournant dramatique. Hathaway commence à souffrir de dépression schizophrène paranoïaque périodique et imprévisible, causant des séries d'hospitalisation dans des instituts psychiatriques. Très affaibli, Hathaway trouve la force d'enregistrer Extension of a Man en 1973. Il demeure absent de la scène entre 1973 et 1977. Puis Hathaway semble reprendre goût à la vie, se réconcilier avec Roberta Flack, avec qui il enregistre The Closer I Get You en 1978 au succès instantané. Atlantic décide de ressusciter ce duo magique, mais la tragédie qui suit va définitivement porter un coup d'arrêt au projet. Le 13 janvier 1979, Donny Hathaway est en studio avec le chanteur Eric Mercury, le percussionniste de Miles Davis, James M. Toomey. Les vocaux sont ok, mais Hathaway est soudain très préoccupé, agité et paranoïaque. Il met fin brusquement à la session. Quelques heures plus tard, le corps du Soul Brother est retrouvé 15 étages plus bas au pied de l'Excess House Hotel. Donny Hathaway vient ainsi de mettre fin à ses jours en se défenestrant à l'âge de 34 ans, laissant fans et proches dans l'incompréhension et le désarroi. Générosité, talent et drame sont les termes qui me viennent lorsque j'évoque ce génie de la soul music, hélas parti trop tôt. Reste son patrimoine musical qui mérite toute votre attention. Parole de mélomane.
Merci beaucoup Vincent. Turban, tu me présentes souvent des artistes qui ont des fins tragiques, mais qui ont laissé derrière eux des héritages musicaux assez incomparables.
La preuve en est, The Ghetto, c'est un morceau fabuleux, c'est dans la même lignée que What's Going On de Marvin Gaye. Vous savez, toute cette soul consciente, politisée, mais dans le bon sens du terme, pour aider la communauté. James Brown a fait ça à une époque avec Saying Loud and Black and I'm Proud. Marvin Gaye a fait aussi, Donny Hathaway. Il y avait une conscience sociale, il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Nous n'oubliez pas, avec l'émergence du Black Power, les Black Panthers, la revendication, la fierté d'être noir en fait. Black is beautiful, d'ailleurs c'était le slogan de l'époque.
On écoute justement un extrait de The Ghetto, Part 1.
Yes, this is the ghetto. Shown up now.
Ouais, merci Vincent Turban pour cette chronique de Mélomane invétéré. Jack, rapidement, tu avais une question,
Une question pour Gaëlle.
Ah, surprise.
Quelle est la chanson qui vous fait toujours pleurer?
Oh là là, il y en a beaucoup. Non, il y a beaucoup de chansons, mais j'avoue, moi j'aime énormément tout le répertoire de Johnny Lang et spécialement Lie to Me.
Merci pour cette belle réponse.
C'est l'artiste qui m'a donné envie de faire ce métier-là aussi.
On fait une petite liste, on ira voir. Tu iras l'écouter. Olivier.
Très bien. Tel un magicien qui fait apparaître grâce à sa baguette des bouquets de fleurs, Fred Zedoun, à sa façon, fait de son stylo une baguette magique et nous offre des chansons comme autant de colombes de la paix sorties d'un chapeau imaginaire. Il a le vers facile et la rime riche. Chez lui, derrière des sujets les plus graves, il y a toujours un sourire qui traîne et qui vous ensoleille le cœur.
Quelle présentation!
C'est quoi une bonne chanson pour toi?
Une bonne chanson, pour moi, c'est une chanson que j'ai terminée le soir à 1h du matin et que je ne jette pas dans la poubelle le matin en me réveillant à 10h. C'est l'épreuve, et l'épreuve du matin est souvent assez quand même, c'est la commission de la hache quand même, quoi. C'est-à-dire que parfois tu relis des choses et tu te dis non, c'est pas possible. Et voilà. Mais donc, une bonne chanson, c'est celle qui reste sur le bureau, quoi, en fait.
Alors, est-ce que comme tous les auteurs à qui on a pu poser cette question, il y a des chansons qui sortent comme ça en quelques minutes, couplet-refrain, et on sait pas pourquoi, il y a rien à corriger. Puis il y en a d'autres, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, il y a des chansons, tu mets des mois à trouver le dernier couplet, le dernier refrain.
Souvent les plus tristes, ce sont des chansons que je dis en riant de ne pas avoir écrites. Dans mon dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Gilles Song, que j'ai écrite juste après avoir appris la disparition d'un ami qui était plus qu'un ami, qui était un frère. Et honnêtement, j'ai mis les mains sur le clavier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette chanson, elle est venue le temps de l'écrire, quoi.
Et j'ai
pas retiré un mot de la feuille. Enfin, c'était vraiment d'écriture automatique.
C'est à la fois parole et musique sur cette chanson.
Oui, tout à fait.
Parce que on te connaît en tant qu'auteur. mais tu es aussi compositeur.
Sur le dernier album, j'en ai un fait petit pas peu mal.
Ouais.
J'en ai fait beaucoup de musique.
De musique.
Donc c'est venu facilement. Enfin, je sais pas. Il y a des moments de grâce comme ça, des moments où on va rien pondre. Enfin, je parle sous le contrôle de Gaël qui doit connaître ça aussi. Il y a des moments où on met des semaines et des semaines à aligner deux mots. Puis il y a des semaines. Il y a des moments. Cet album a été écrit dans l'urgence. A été écrit rapidement. Les méchantes langues diront que ça s'entend, mais c'est. Non, je dis ça en rire. Mais c'est vrai que ça a été écrit. Je pensais pas faire un album aussi vite. Le Casino de Paris pour le mois de juin s'est présenté. À partir de là, mon cher éditeur Gérard Davous m'a dit : ouais, c'est bien qu'on fasse le Casino, mais ce serait bien que tu aies un nouvel album.
Ouais.
Et donc là, j'écris vraiment, mais je me réveillais la nuit pour écrire. Puis comme. Voilà, il y avait plein d'émotions nouvelles, pas forcément des choses gaies d'ailleurs, qui arrivaient. Ben voilà, cette espèce de trop plein d'émotions est sortie.
C'est pour ça que je faisais la référence tout à l'heure de manière humoristique à ton côté blues, parce que je trouve que cet album, le paradoxe qu'il y a chez toi et ce qui est très agréable, c'est que tu arrives à chanter des chansons, à aborder des sujets graves, mais toujours avec un sourire qui fait qu'on entend le texte, on l'entend peut-être mieux que si tu avais mis de la gravité.
Parce ça me touche que tu dis ça.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ça me touche que tu dis ça.
La première fois que j'ai entendu Le fond de l'air est frais, je me suis dit ah, un petit côté Beatles, un petit côté pop Britpop, enfin ça va être très léger, très sympa.
Swinging London.
Et en fait, j'ai écouté ce matin en partant matin de bonne humeur et tout, puis je suis vite redescendu.
Non mais on reste de bonne humeur parce que
oui.
L'habillage, l'emballage est comme ça, mais le tribute à moi-même, on pense que c'est une chanson légère. Oui, c'est une chanson légère, mais c'est une chanson sur la difficulté d'être qui on est. J'aime bien prendre des contre-pieds comme ça. Si on commence à parler de choses graves en étant grave, ça devient misère, et ça fait pleurer tout le monde, et ça fait chier tout le monde.
Bon, ben on écoute Le fond de l'air est frais.
Avec plaisir.
Le fond de l'air est frais. J'ai gardé un vieux pull anglais. En écoutant les infos, certaines me font froid dans le dos. Le fond de l'air est frais, et quand le vent se fait mauvais, je noue mon écharpe en cachemire sur mon nez pour moins le sentir. Le fond de l'air est frais, l'histoire on la connaît. Les bras baissés, le fond de l'air est frais, la bêtise est décomplexée, l'inculture est tombée du lit, l'ignorance est de sortie, le fond de l'air est frais, j'entends des esprits enrhumés, éternuer leurs inepties. Je crains fort une épidémie. Le fond de l'air est frais, l'histoire on la connaît. Il nous faut bien veiller, ne pas les bras baissés. Le fond de l'air est frais, même au soleil, même en été. La météo est très inquiète, le mercure n'en fait qu'à sa tête. Le fond de l'air est frais, l'histoire on la connaît. Il nous faut bien veiller, ne pas les bras baissés. Le fond de l'air est frais, il ne faut surtout rien lâcher. Un autre jour, autre saison, et la terre tournera rond. Et la terre tournera rond. Certaines me font froid dans le dos. Le fond de l'air est frais.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Le fond de l'air est frais de Frédéric Zetoun et nous sommes avec toi donc sur le pont de notre bateau. Il est 16h23 sur Radio Libertaire.
Et on trouve ce magnifique titre qui ouvre l'album Les Souvenirs de Demain, album qui est sorti il y a quelques jours.
Vendredi dernier.
Qu'on peut trouver à
peu près
dans toutes les bonnes épiceries et tous les magasins.
Les bonnes pharmacies aussi.
ça devrait être dans les pharmacies car c'est un album qui fait beaucoup de bien malgré les sujets... profond et pas toujours très drôle que tu y abordes. Comme je le disais tout à l'heure, ton sourire fait en sorte que on écoute ça, on se dit « Ah ouais, ça fait du bien, mais ça fait réfléchir. » Enfin, c'est un très très bel album. Et je dis pas ça parce que tu es en face de moi, hein, bien entendu.
Non, ça me touche beaucoup. Venant de toi et sachant et connaissant, parce qu'on se connaît connaissant ta franchise, ça me touche beaucoup.
Tu as passé énormément de temps, beaucoup d'années à écrire pour les autres.
Oui, je continue d'ailleurs.
Mais tu continues bien sûr et... tu as décidé un jour de passer de l'autre côté du micro, de venir sur la scène pour chanter toi-même tes chansons. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chanteur ?
Deux personnes, Gérard Davous, qui est mon éditeur depuis toujours, et qui était l'associé, qui est toujours associé, il n'est plus là, mais cette société lui appartient moitié-moitié avec Gérard Davous. C'est un monsieur qui s'appelle Charles Aznavour, et qui un jour a lu certains textes, et il m'a dit, mais ceux-là, il faut que vous les chantiez vous. Et il y avait une chanson qui lui plaisait bien, qui s'appelait Bien au contraire, qui s'appelle toujours Bien au contraire. Donc il m'a dit, mais non seulement ça, je vais en faire la musique, et vous n'avez pas de musique dessus, je vais faire la musique, et si vous l'enregistrez un jour, je viendrai la chanter avec vous. C'est ce qu'il a fait. 3 semaines avant de nous quitter, il est venu, il a tenu parole, il est venu chanter cette chanson sur un précédent album. Et quand tu as des gens comme ça, alors c'est vrai que j'étais pas tout jeune, quand ils m'ont dit ça, j'avais passé le chiffre 5, j'avais une toute petite cinquantaine d'années. Et qu'on t'incite et qu'on t'invite et qu'on te dit, ben voilà, on va te produire et chante tes chansons, c'est un tel bonheur. J'osais pas, en fait. C'est pas que j'étais très heureux en écrivant pour les autres. C'était pas du tout une solution de facilité, c'était pas du tout un pis-aller, c'était pas du tout un nom de consolation. J'étais très heureux, je pensais que ma place serait toujours là, d'être dans l'ombre et d'écrire pour les autres. Et puis c'est vrai que j'avais des sujets que je pouvais pas donner aux autres. Quand tu parles de la disparition d'un être cher, tu peux pas le faire. Enfin, tu vois, c'est il y a des choses qui sont vraiment
personnelles.
Voilà, à soi, quoi. Et donc voilà. Puis j'y ai pris goût. Et puis un premier café de la danse. Et puis un deuxième café de la danse. Et puis voilà. Et puis des toutes petites salles. Alors, franchement, on n'a pas fait que des Carnegie Hall tous les matins. Ça, je.
Oui.
Tu peux en témoigner.
Je peux confirmer.
On a toujours joué devant. Oui. Devant très peu de gens. Pas toujours.
Il y a des fois du public quand même.
Il y a eu, bien sûr, il y a eu des salles et des salles remplies, mais ça reste encore extrêmement modeste. Ça reste encore. Allez, on va rencontrer une centaine, 100-150 personnes le week-end, mais quel bonheur. Enfin, moi, c'est vraiment. C'est un métier d'artisan, chanteur, et je le vis avec un grand bonheur.
Et tu fais une trentaine de dates par an ?
Une petite trentaine de dates par an, tout seul comme un grand.
Il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient faire une trentaine de dates par an devant 150 personnes.
Et puis quand il n'y a pas de budget, ben, si ça paye juste mon guitariste, ben, je suis content. Et puis quand il y a un peu de sous, ben, on partage. Enfin, voilà, j'ai ce bonheur de me faire plaisir et de tenter de faire plaisir
cette
aux gens.
Cette liberté-là, en tout cas, de pouvoir te dire on n'y va pas pour l'argent, en tout cas, on y va pour le plaisir.
Pour le plaisir avant toute chose. Ben, quand on fait des chansons, c'est quand même pour qu'elles vivent. Mmh. Si on fait des chansons pour les écouter soi-même dans sa chambre, en tournant, en rond, je pense qu'il vaut mieux rentrer tout de suite à l'hôpital psychiatrique, quoi, je veux dire, en vrai. Donc, non, c'est un vrai bonheur. Et puis, à force de semer, ben, ce petit noyau est en train de grossir un petit peu, et là, on va tenter le Casino de Paris au mois de juin prochain. Donc ça, c'est un vrai pari.
Tu as commencé ta carrière donc en tant qu'auteur, mais pas forcément de chansons, parce que tu as commencé par écrire dans les émissions de Jacques Martin, des sketchs, des parodies.
Des parodies, des sketchs, des... Enfin, tout ce qu'on pouvait écrire. Moi, du moment que j'écrivais, j'étais content. J'ai fait de la pub. Et pendant 15 ans, sur une grande radio périphérique concurrente et néanmoins amie, c'est le terme Europe 1 pour ne pas la citer.
Nous sommes tous des amis dans la radio.
J'ai fait plein de pubs. La moquette Saint-Maclou, enfin, des tas de trucs super sympas. Du moment... J'ai appris mon métier en faisant ça en même temps. Parce que quand tu as 30 secondes pour délivrer un message, je te jure que comme école, c'est super rigoureux. Quoi. Ouais. J'ai fait des bouquins aussi. Moi, c'est l'écriture. Mon truc, c'est l'écriture. Ça. Si en plus, maintenant, je peux chanter mes mots, bah tant mieux, quoi.
Ouais. Et donc tu as eu de nombreuses collaborations. On parlait tout à l'heure avec Hugo Frey.
Hugo Frey, on a fait quelques chansons ensemble.
Tu as écrit beaucoup de chansons pour Frédéric François.
81 à ce jour.
Oui, ça fait quelques albums.
81 chansons à ce jour, chantées. Donc ça veut dire que j'en ai au moins écrit le double, voire le triple. Ouais. Et on est en train de bosser sur le prochain album. Je ne m'arrêterai qu'à 100. Avant ça, je ne m'arrêterai pas. Non, mais et 81 chansons, je te jure, c'est presque autant, comme c'est toujours l'amour avec Frédéric François, c'est presque autant que de position dans le Kama Sutra. Hein.
Est-ce que...
je commence à être bon, là, d'un coup.
Est-ce que on n'a pas l'impression, justement, de tourner en rond pour, quand on écrit pour Fredo?
Non, parce qu'il y a amour toujours et toujours amour. Hein, tu
oui,
peux...
mais... est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a pas...
non, mais là, je fais de l'humour facile. Oui, oui. Très, très sincèrement, c'est une vraie difficulté. Et c'est une difficulté, et c'est en même temps très noble. Moi, au départ, je l'avoue, j'étais fan quand j'étais tout petit, j'étais fan quand j'avais 5-6 ans. Mm. Ce monsieur me faisait rêver. Puis un jour, je le rencontre, on est au restaurant avec Laurent Gérard, pour ne pas le citer. Laurent brocarde gentiment Frédéric François. Et moi, ce mec me touche parce que je pense qu'il est profondément sincère, parce que c'est un chanteur d'amour, c'est un chanteur de charme. Il chante pour les dames d'un certain âge, et pourquoi pas, et ses zéniths sont pleins, et ses olympias sont pleins. Et il me propose, on plaisante, et il me propose d'écrire pour lui. Au début, je me rendais pas compte, j'ai tenté de faire des chansons d'amour le mieux que je pouvais. Et puis tu t'aperçois, quand tu vas le voir sur scène, tu vois les gens qui viennent le voir. Tu vois ces dames qui viennent du Nord, tu vois ces dames qui viennent souvent en bus, qui se sont saignées aux quatre veines pour pouvoir se payer une place à l'Olympia. Ces dames à qui ils disent que certainement peu d'hommes leur disent à ce moment-là. Et d'un coup, d'un seul, tu ris plus du tout. J'ai jamais beaucoup ri, mais si j'avais un petit côté goguenard, je peux te jurer que ce jour-là, je l'ai perdu. Mm. Tu vois la réalité de son public et tu vois la sincérité de ce mec. Mm. Et à partir de là, effectivement, alors il faut faire des chansons avec... Tu n'as pas un volume lexical énorme, tu ne vas pas faire des chansons sur Roland Barthes ou sur sur Jean-Paul Sartre, c'est clair. C'est amour toujours, mais il faut faire sincère et joli. Donc effectivement, c'est une vraie gageure.
Une gageure. Oui. Et tu t'en sors à chaque fois, puisque les albums sortent régulièrement chez
Frédéric. Mais c'est de plus en plus difficile. De trouver des façons de dire l'amour un petit peu différentes.
Tu parlais tout à l'heure de ton éditeur, Gérard Davoust.
Oui.
Quel rapport tu as justement, parce que c'est vrai que c'est un personnage du monde de la chanson, peut-être que Gaël aussi tu as un mot à dire là-dessus, dont on parle pas souvent, mais qui peut être très important dans la vie d'un chanteur, c'est l'éditeur. Quel rapport, toi, enfin je sais que tu as un rapport très particulier, mais explique-nous un peu
très,
plus
très précisément. Affectif, très... Moi, j'envisage pas deux jours sans l'avoir au téléphone, quoi. C'est le plus jeune monsieur de 89 ans que je connaisse. Il aura 89 ans dans la semaine prochaine. C'est un membre de ma famille, c'est pas mon éditeur, c'est un membre de ma famille. C'est quelqu'un avec lequel il y a toujours ce respect éditeur-artiste, c'est-à-dire qu'on a beau être très proche et avoir des sentiments qui vont bien au-delà d'un rapport artiste-éditeur, c'est quelqu'un qui sait encore aujourd'hui me dire quand je me trompe, qui le dit avec une telle délicatesse que finalement tu peux jamais mal le prendre. Et c'est Enrico Macias qui, dans son livre de mémoire, parle à un moment de Gérard Davoust, qui avait été un de ses premiers directeurs artistiques. Ça fait 70 ans qu'il est là, Gérard. Et Enrico, en lisant, j'entendais la voix d'Enrico et l'accent qui disait « Gérard Davoust, et même quand il vous dit non, on a l'impression qu'il a dit oui. » C'est exactement ça. Gérard, c'est l'élégance fait homme.
C'est
l'élégance fait homme. Ouais. Il aime les artistes. Quand il s'engage auprès d'un artiste, il est là. Tu es venu souvent nous voir sur scène et dans des lieux tout petits, le petit Alhambra. Gérard est là tout le temps. Il pourrait se reposer le soir, il pourrait se dire le week-end, non, je me repose un petit peu. Il est là. Son artiste joue quelque part, il est là. Ouais. Et ça, je peux te dire que ça fait chaud au cœur. Et quand tu as quelqu'un comme ce monsieur qui te soutient, tu peux pas le décevoir.
Il te soutient intellectuellement, moralement, mais il te soutient aussi dans son rôle d'éditeur financièrement.
Bien sûr.
Pour te produire disques, clips, salles de spectacle. Enfin, il fait vraiment un travail d'investissement.
Il y va vraiment. Alors, ouais. sur les disques, il y a deux autres personnes que je veux citer. Ces deux autres personnes sont Thierry Communal, qui met son studio à notre disposition, et pas que son studio, son amitié, son cœur, enfin, il est partie prenante, et Gérard Capaldi qui réalise mes albums totalement bénévolement depuis maintenant 4 ans.
Donc, ah, t'as trouvé quelqu'un de bénévole, c'est bien ça.
Ils y croient vraiment.
Bravo, t'as réussi, non, c'est bien, tu fais partie du métier.
C'est une véritable famille, oui, et j'espère un jour leur donner raison.
Ouais, c'est bien. Et toi, Gaël, par rapport à ton éditeur ou tes éditeurs, je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi?
Oui, nous, on a eu des éditeurs différents à chaque fois, donc, mais là, pour la suite, on a l'éditeur avec qui on travaille sur les premiers albums, avec lequel on qui revient, et il a fait partie du début de l'aventure, donc je suis contente qu'on arrive à retrouver nos chemins.
C'est qui?
Alors, c'est Bouddha Musique.
Oui, d'accord. Voilà. Bouddha Musique, c'est... Comment s'appelle-t-elle? Oh, mais je ne connais qu'elle. La Bouddha Musique, c'est une grande dame blonde.
Cécile Bernier.
Merci, c'est Cécile Bernier.
Oui, alors, parce qu'eux, ils gèrent une grosse partie sur l'Allemagne et sur la France. Nous, on est directement liés à Rouen, en fait, d'accord, qui gère la partie France.
Et est-ce qu'ils sont, ils ont vraiment une activité, enfin ils sont vraiment très proactifs vis-à-vis de ton catalogue?
Ben là pour la suite, ouais. Oui, il y a des choses, c'est tout frais là de repartir ensemble, donc il y a plein de choses, de belles choses qui vont se passer avec eux en fait.
Magnifique. En tout cas, c'est une bonne maison, je crois.
Ben, c'est super. Oui.
Et on fait écoute... une petite pause en musique, ton paddle, Gaël, est arrivé.
Ah, voilà. Super.
On va pouvoir te débarquer.
Merci à tous.
Merci d'être venu et on écoute un tribute à moi-même de Frédéric Zeto.
J'aurais bien fait Mimi Mati, mais je suis trop grand, même assis. J'aurais bien tenté Serge Lama, mais moi au moins je ne boite pas. Pisser sur les femmes infidèles, je n'ai pas le talent de Jacques Brel. Sardou, ça m'aurait plu vraiment, mais je suis un peu trop souriant. À la fois un rose hommage, je me cherche un fromage, un artiste adulé, bon à ressusciter. Mais je n'ai rien trouvé pour la peine, je fais un tribute à moi-même. Une calvitie, des cheveux blancs et mon plus beau fauteuil roulant. Je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que je suis, vu que tous les autres sont déjà pris. Déjà pris. J'aurais rêvé de faire My Brand, mais j'ai trop peur du parapente. J'aimerais bien pleurer comme Jonas, mais je n'ai rien d'un Ashkénaze. Hurler la mûre tout comme Johnny, là le créneau est déjà pris. J'ai même voulu faire Claude François, mais le courant ne passait pas. À la foire aux hommages, je me cherche un fromage. Même une vague ressemblance, pour moi ce serait Byzance. Mais j'ai rien trouvé pour la peine, je fais un tribute à moi-même. Une calvitie, des cheveux blancs et mon plus beau fauteuil roulant. Alors à défaut de faire comme, je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que je suis, déjà pris, déjà pris. Alors à défaut de faire comme, je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que
comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Le tribute à moi-même, Frédéric Zeytoun. J'adore les paroles. Tous les autres sont déjà pris. Non, mais je trouve ça... simple, mais très, très profond en même temps.
Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de te rendre hommage avec cette distance et cet humour
Ce qui m'a surtout donné envie au départ, c'était pas du tout de me rendre hommage, mais de dire à quel point je commence à en avoir un petit peu assez de la mode et des tributes aujourd'hui. Si on veut remplir un zénith, on fait un tribute à Queen. Il y a 42 tributes à Queen. Il y a la guerre des Jacques Brel maintenant. Aujourd'hui, il semblerait que les gens aient vraiment besoin de se plongés dans leur petite Madeleine de Proust. Effectivement, les tributes n'ont jamais aussi bien marché. Mmh. Et je parlais de ça avec mon éditeur qu'on évoquait tout à l'heure un soir. On a beaucoup rigolé. J'ai dit, bah, peut-être que je devrais faire un tribute là. Peut-être qu'enfin tu gagnerais de l'argent avec moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Enrico Macias? Enfin, on était en train de déconner là-dessus. Et je suis rentré et j'ai Chris Tex, que Gérard Capaldi a mis en musique. Au départ, c'était vraiment une chanson qu'on a fait pour rire. Puis finalement, je trouve qu'elle a du sens, cette chanson, parce que c'est la difficulté d'être soi-même, quoi. Mmh. Et donc, c'est un petit peu comme une carte d'identité. Donc, je la chante avec beaucoup de bonheur.
Oui, et puis avec une certaine distance qui fait que, voilà, on sent que le texte, on pourrait se dire, un tribute à moi-même, le mec, il a un melon, mais de dingue. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de distance et d'ironie.
Et si je me moque de quelqu'un là-dedans, oui, c'est
bien toi.
C'est moi-même. Ouais. Je précise d'ailleurs que Serge Lama, parce que quand je dis, mais moi au moins, je ne boite pas, oui. Chanté par quelqu'un sur ses deux jambes, ce serait carrément odieux. Chanté par un mec qui est en fauteuil roulant, dire que moi au moins je ne boite pas, ça a beaucoup fait rire Serge qui nous a envoyé un mot adorable en disant enfonce, ça fait beaucoup rire. Et Mimi Mati, je sais pas encore. Maï Brandt, non, ça va, on n'a pas eu de retour.
Ne dira
ça.
Rien.
Claude François non plus.
Tranquille de ce côté-là. J'apprends sur cet album, alors à ma grande surprise, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on se connaît un petit peu, mais alors j'apprends à ma grande surprise que tu es cyclothymique.
Oh, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est vrai qu'une bonne nouvelle peut me rendre euphorique et une nouvelle un petit peu en demi-teinte peut me mettre, ça y est, c'est fini, j'arrête tout. Non, je suis très...
t'es très sensible, finalement.
C'est cyclothymique, ce qui n'est pas toujours évident pour les gens qui m'accompagnent.
Si j'en crois la chanson, effectivement...
c'est pas ça. J'ai un peu forcé le trait, mais c'est vrai que je peux vite m'emballer et vite redescendre. Je remonte tout de suite très vite aussi après, hein, mais c'est...
Mais c'est le principe
de la cyclothymie.
Exactement. Et puis c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont pas toujours évidents. C'est vrai qu'on est souvent soumis à des forces contraires et c'est vrai que à 2h de l'après-midi on peut être le roi du monde et à 4h et à 16h être le dernier des ringards parce qu'on va lire un papier pas sympa, parce que voilà, donc on
est, puis
on,
c'est un peu l'ascenseur émotionnel.
Et puis quand on fait ce métier, on est un peu sensible, on est des petites choses fragiles en fait. On dirait pas comme ça, mais c'est vrai.
Et heureusement.
Bah sinon on n'écrirait pas, effectivement.
Dans ton album, dans ton dernier album, il y a un joli duo avec Annie Dupéret.
Oui, c'est une véritable histoire d'amitié. Annie, je l'ai rencontrée en 2021. Et j'étais 2021 ou 2022, j'ai un doute. En 2021. Et j'étais parrain d'une association qui luttait contre la violence faite aux femmes, les funambules pour ne pas les citer. Et j'étais donc parrainais un concert à l'Alhambra où je devais chanter une chanson, et puis j'ai vu Annie Dupéret qui était la marraine mais l'année précédente, et donc elle m'a passé le témoin. Je connaissais Annie Dupéret comme tout le monde, j'étais sous le charme comme tout mec normalement est constitué. Et surtout je l'ai vue dire un texte, parler, chanter quelque chose qui m'a vraiment... J'ai pris une claque, d'abord la simplicité de la dame, la grâce. Et moi, j'avais un texte à parler chanté. Et donc, je suis allé la voir en disant, est-ce que je peux vous envoyer quelque chose? Vraiment, j'y allais sur des œufs. Et elle, très chaleureusement, m'a dit, mais vas-y, mais envoie-moi, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, je lui ai envoyé cette chanson, ça s'appelait « J'aimerais ». Elle a décidé de venir la chanter avec moi, de venir la parler avec moi. Je chantais les refrains et elle parlait. Et elle est venue me retrouver au Trianon. On a fait cette chanson aussi, on a eu l'occasion de la faire lors d'une soirée privée au Café de la Danse. Et puis elle m'a dit, moi j'aimerais bien maintenant, tu sais, mais j'aime bien chanter aussi. Et elle chante très bien, Annie. Donc parler c'est bien, mais j'aimerais bien chanter. Et donc voilà, ben, comme Annie pour moi c'est une éternelle amoureuse, comme elle a comme ça dans les yeux cette espèce de petite lumière de vie qui fait que les années qui passent ce sont pas des années mais des printemps qu'elle porte. J'ai eu envie de lui écrire cette chanson, elle n'a jamais fini d'aimer. Elle a reçu la chanson et comme la première fois, ça s'est fait très simplement. Elle est venue en studio, on a pris une grande leçon de professionnalisme. C'est-à-dire que quand elle arrive en me disant « je suis débordé, j'ai pas eu le temps de travailler », elle a bossé son texte comme c'est pas permis. Tout y est, tout est en place. Enfin, c'est une grande, grande, grande... grande professionnelle, une grande dame.
Tu avais déjà fait un album de duo,
ouais.
Il y a
quelques
ans,
années,
4,
en 2000, 2018.
18, oui, c'est ça.
2019.
6 ans maintenant, tu avais déjà fait un album de duo,
oui.
Avec pas mal de copains qui étaient venus partager tes mots avec toi, mais Annie n'était pas là.
Je ne la connaissais pas, et puis c'est vrai que c'est toujours sympa de chanter en duo avec une grande comédienne, parce qu'elle a une manière de placer les mots c'est pas pareil. On ne chante pas comme on joue la comédie. Exactement.
Est-ce que on n'écouterait pas un petit cyclotimique Captain Nifle, s'il vous plaît, extrait du dernier album
dans la tempête. De Accrochez-vous Fred à la barre.
Les souvenirs de demain, cyclotimique.
On ne peut jamais la prévoir. Un jour je nage dans le bonheur, un autre je me broie dans le noir. Tout peut varier en une seconde, en un simple claquement de doigts. Hier j'étais le roi du monde, ce matin je ne suis que moi. Cyclotimique, déprimé, euphorique, il me suffit d'un clic pour changer de musique. Cyclotimique, ça tient souvent à pas grand chose, juste un détail insignifiant. Et le plus beau tapis de rose a des airs de sable mouvant. Alors mon beau cheval de Troie se transforme en âne batté. Les ballons survolant les toits sont des baudruches dégonflées. Cyclotimique, pire qu'un toc ou qu'un tic, il me suffit d'un hic pour changer de musique. Cyclotimique, ce n'est pas toujours évident pour celles qui sont mon entourage. Elles se couchent avec le printemps et se réveille en plein orage. Je peux passer du rire aux larmes comme le plus grand des comédiens. C'est mon talent et c'est mon drame, car je n'y suis vraiment pour rien. Cyclotimique, déprimé, euphorique, du comique au tragique, il suffit d'un déclic. Cyclotimique, déprimé, euphorique, du comique au tragique, je connais la musique. Cyclotimique, cyclotimique, cyclotimique.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
16h45 sur Radio Libertaire 89.4 et nous sommes avec Frédéric Zetoun. Nous venons d'entendre son titre Cyclotimique.
Extrait de l'album Les Souvenirs de Demain qui vient de sortir, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Frédéric n'est pas venu avec une seule actualité, il est venu avec deux actualités, double actualité, parce qu'en plus d'un album magnifique dont on a parlé abondamment il y a quelques minutes, il y a également le dictionnaire jubilatoire de la chanson française.
La chanson d'amour
qui vient de sortir.
Oui. Et la même semaine.
La même semaine, chez HarperCollins. Donc c'est une commande d'éditeur, c'est ça ?
C'est une commande d'éditeur. Je me trouvais dans un salon du livre il y a à peu près un peu moins d'un an, en avril dernier, mois de mars dernier, à Bondu, dans le Nord, et je venais de signer pour écrire un livre très très personnel avec un certain éditeur. Et puis, je suis en train de signer mon précédent bouquin, et je vois arriver une dame absolument charmante qui me dit « Bonjour, je suis responsable des éditions HarperCollins, on vous cherche. » On vous cherchait, ça tombe bien qu'on lance une nouvelle collection, la collection des dictionnaires jubilatoires. Et je vous assure que c'est vrai, le mot jubilatoire m'a tout de suite fait tilt. J'ai un jubilatoire, mais oui, d'accord, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer au niveau de la chanson ? Je dis, écoutez, je viens de signer avec les éditions de l'Archipel pour écrire un livre très très personnel. Là, je viens de signer, mais j'avais signé genre et trois jours avant. Elle me dit, mais on pourrait peut-être s'arranger, ce serait quand même sympa que vous le fassiez, on aimerait sortir ça pour le mois de février. Donc on a le mois de février, j'ai réfléchi en deux secondes, février, Saint-Valentin, chanson d'amour. J'ai dit, tiens, si vous voulez, on pourrait faire un truc marrant autour de la chanson d'amour. Mais mais pas juste des intitulés de chansons, vraiment faire un truc sur les thématiques, sur les mots-clés des chansons d'amour, et voir comment le langage amoureux avait pu évoluer en 70 ans. Et ça s'est fait, voilà, et dans la semaine, on a signé un contrat et je me suis mis au boulot.
Combien de temps tu as mis pour écrire? C'est une somme quand même.
C'est une somme, j'ai vraiment bossé j'ai commencé à écrire à partir de la mi-avril, et j'ai tout rendu à la mi-octobre.
Oui, quand même. Oui.
L'été a été studieux.
Avril, l'été a dû être quand même très
et
studieux.
Entre, et entre l'album et ça, donc en fait, je faisais moitié-moitié, je faisais mi-temps.
Une main sur le clavier, une main dans
le matin, le bouquin, et l'après-midi, studio pour enregistrer et finaliser les chansons.
Le stylo
a changé. Mais c'est tellement génial. Ouais. Et dans nos métiers, être débordé de boulot, oui. Bon, on va pas s'en plaindre.
Non,
quand même,
non, jamais.
Je trouve ça indécent, les mecs qui viennent te dire oh là, j'ai trop de gars, mais va dormir.
Et donc, ce dictionnaire jubilatoire, évidemment, je l'ai parcouru. Alors, ça, je vais pas te dire que je l'ai lu intégralement parce que c'est un dictionnaire. Donc, voilà, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup d'occurrences. Voilà. Mais j'ai relevé beaucoup d'anecdotes hyper touchantes, des choses, des anecdotes vraiment que je n'imaginais. J'ai été hyper touché par l'anecdote sur Brassens et Antoine Paul pour les passantes.
Ah ça, elle est belle cette histoire.
C'est quasi incroyable.
Il faut nous la raconter.
Voilà, justement. Si, comme on n'a plus beaucoup de temps.
Je fais d'autant plus vite et je suis d'autant plus content de te la rencontrer qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de fil du petit-fils d'Antoine Paul, qui avait été élevé par son grand-père parce que ses parents étaient décédés dans un accident d'avion. Il est venu à Paris, il n'habite pas à Paris, il est venu à Paris, je l'ai rencontré et il m'a fait un facsimilé des passantes, de ce texte-là.
Oui, parce que Antoine Paul a écrit Les passantes.
Voilà, alors en fait, ce qui se passe, Brassens, à la fin des années 50, est chez un bouquiniste, comme d'habitude, il regarde comme ça des petits bouquins de poésie, et puis il tombe sur un bouquin qui est auto-édité, qui est auto d'un certain Antoine Paul, P.O.L., et tout le reste des textes ne l'emballe pas plus que ça, mais il y a un texte qui attire vraiment son attention, dont il tombe vraiment amoureux, qui s'appelle Les Passantes. Il se dit, un jour je le mettrai, tiens, ça je le mets de côté, un jour je le mettrai en musique, comme il a fait avec Paul Fort, avec les plus grands les plus grands poètes. Et puis le temps passe, et en 72, Brassens doit faire sa rentrée. À Bobino, il lui manque des chansons. Il lui manque des chansons. C'était l'album Don Juan. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Et il se souvient de ce texte. Il se souvient de ce texte. Il le met en musique. Puis une fois qu'il a eu fini, il est vraiment content de son truc. Il demande à Pierre Autoniante, son fidèle secrétaire, de trouver l'auteur de ça. Et du coup, le mec doit être à la SACEM, à la Société des gens de lettres. Bref, on fouille partout. Pierre Autoniante, mais vraiment, passe des jours et des jours à chercher ce fameux Antoine Paul. Il ne le trouve pas, ni la Société des gens de lettres, ni la SACD, ni la SACEM, ni même le bottin, on ne trouve d'Antoine Paul. Brassens se dit, je vais l'enregistrer, c'est un peu gênant quand même, je voudrais quand même avoir l'aval de ce monsieur. Il est presque sur le point de renoncer à ce projet, lorsqu'un jour, au bureau de... Il n'y a pas de portable à l'époque, au bureau des éditions Georges Brassens, le téléphone sonne, et un vieux monsieur de 80 ans dit à Pierre Antoniante, voilà, bonjour, je suis retraité, centralien retraité, ingénieur à la retraite, on a une petite fanzine où on est tous fans de Brassens, et on aimerait, pour le prochain numéro, avoir à titre gracieux l'autorisation de reproduire certains textes. Oui, bien sûr, monsieur, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Puis au moment de raccrocher, écoutez, pour la bonne forme, envoyez-moi quand même un petit courrier. Il n'y avait pas de fax, hein. Et envoyez-moi un petit courrier, comme ça je vous le contresignerai, puis je vous le renverrai. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Paul. Monsieur Paul P.O.L. Oui. Antoine Paul. Et là, Autoniante au téléphone. Attendez, vous appelez Antoine Paul? Oui, tout à fait. Vous avez écrit un jour dans votre vie? Oui, mais il y a longtemps, oui, j'ai écrit des petits poèmes que seule ma femme et mes enfants et mes petits-enfants connaissent. C'est vous qui avez écrit Les Passantes? Et là, le mec fond en larmes. C'est-à-dire que toute sa vie, il a voué une admiration sans borne à Brassens. Et donc, le petit-fils me dit, j'étais là le jour où ce coup de fil est arrivé. Quoi.
Magnifique.
Et j'avais 8 ans et je l'ai vu, ce truc-là. Ouais. Et donc, il lui dit, oui. Georges Brassens, on vous cherche partout, il est en tournée, mais il a mis votre texte en musique. Alors, le mec, vraiment, c'est les chutes du Niagara, tellement il est ému. Écoutez, Brassens est en tournée, Georges est en tournée, et dès qu'il revient, il vous appelle, maintenant j'ai votre téléphone, on bouge plus. Quelques jours plus tard, Brassens rentre, Autoniante lui dit, ça y est, j'ai la bonne nouvelle, j'ai eu enfin le mec, il lui raconte, et Brassens dit, je vais l'appeler tout de suite, il appelle, il tombe sur une dame qui est en larmes, mais là pour une autre raison, Antoine Paul est décédé. Entre-temps. Donc, il a su qu'il allait passer à la postérité. Ouais. Il a su que son texte allait passer à la postérité. Il n'a jamais entendu chanter
la chanson terminée, en fait.
Voilà.
C'est belle et triste, c'est magnifique comme histoire. C'est magnifique.
Il y a des chansons quand on en connaît l'histoire, on les écoute plus de la même façon.
Et c'est une anecdote, une très belle anecdote. Donc on retrouve dans le dictionnaire jubilatoire de la chanson
d'amour.
Damur, écrit par notre ami donc Frédéric Zetoun. On trouve plein d'autres anecdotes concernant le Woman in Love des Bee Gees,
oui,
interprété par Barbara Streisand.
Et la version française de Mireille Mathieu.
Je suis une femme amoureuse.
Super texte de Eddie Marnay.
Tout à fait.
Je réclame à Vincent Barbara Streisand.
Oui, Barbara Streisand, certes. Je préfère quand même les frères Gibbs, hein, personnellement, quand même.
Oui, mais ils ne l'ont pas chanté. Ils l'ont composé. C'est Maurice, bien sûr.
Absolument,
oui. On trouve aussi la jolie anecdote concernant Bicycle Race de Queen.
Oui, il était amoureux d'un petit coureur, a priori.
C'est ça.
il avait bon goût, Freddy.
Il voyait passer de son balcon.
Effectivement,
à Montreux, au bord du lac. Et puis il y a aussi une autre entrée qui m'a intéressé, c'est par rapport au slow. Aujourd'hui, oui, les slow, voilà, on ne danse plus le slow aujourd'hui.
Je ne sais
pas pourquoi on ne danse plus le slow.
C'est dommage.
On le regrette bien. Et en fait, tu racontes dans cette occurrence qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les chansons, en fait, qui ne comprennent pas les paroles, qui dansent langoureusement sur des chansons horribles, sur le Louise de Gérard Berliner, par exemple.
Une chanson sur l'avortement, quand même. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son liquage, elle a tué.
Barbara aussi, la dernière fois.
L'aigle noir. Le pire, c'est la balade de Sacco et Vanzetti. Les deux mecs qui sont pris du triphasé sur une chaise électrique. Ouais. Et les gens. Le plus drôle, c'est Jacques Martin qui m'avait raconté, il présentait la tournée de Jean Ferrat, et les gens dansaient sur Nuits et Brouillards. Oui. Ils étaient des milliers, là c'est quand même glauque, mais oui, ça se demandait s'ils écoutent les paroles quand même.
Exactement,
oui, c'était Franck Thomas.
Bien sûr, Franck Thomas.
Très rapidement, est-ce que tu as une question pour Frédéric?
Oui, tiens Frédéric, quel est le premier disque vinyle que vous avez acheté ou volé adolescent?
Je volais pas encore quand j'étais tout petit.
Je volais plus tard.
Non, je volais pas. Je mettais deux disques dans la même pochette.
Ouais.
J'empruntais.
Ton premier disque acheté alors?
Le premier disque acheté.
Multiplier les CD, c'est ça?
Ça devait être, honnêtement, ça devait être Frédéric François.
Ouais.
Ça devait être Frédéric François, un truc comme Laisse-moi vivre ma vie ou un truc comme ça.
Laisse-moi vivre.
Mais je vois que monsieur connaît ses classiques.
Ah bah quand même.
Allez, on écoute
Les gens debout.
Les gens debout.
Moi je préfère les gens debout, ces gens qui n'ont plus peur du loup, tous ces héros du quotidien qui ne renoncent jamais à rien, qui lorsque les temps sont rageux ne baissent ni la tête ni les yeux. Moi je préfère les gens debout, mais c'est juste une question de goût, contre ceux qui vivent couchés et ceux qui marchent à quatre pattes dans le grand zoo des libertés. J'ai vu toutes sortes de primates, ceux qui à force de lécher ont dans la bouche un goût amer, ceux qui se sont en résignés pour ne jamais oser déplaire dans le grand cirque des humains. Parmi tous mes contemporains, moi je préfère les gens debout, ces gens qui n'ont plus peur du loup, tous ces héros du quotidien qui ne renoncent jamais à rien, qui lorsque les temps sont rageux ne baissent ni la tête ni les yeux. Moi je préfère les gens debout, mais c'est juste une question. Toujours très étonné par la souplesse qu'ont certains pour se courber, pour se plier, pour leur talent de circassien, contorsionniste de la vie, voûté à force de ramper, sans foi, sans loi et sans avis, pourvu qu'ils aient un intérêt dans le grand bal des humains. Parmi tous mes contemporains, moi je préfère les gens debout, ces gens qui n'ont plus peur du loup, tous ces héros du quotidien qui ne renoncent jamais à rien.
je préfère les gens debout. Mais c'est juste une question de goût. Moi je préfère rester debout. Mais c'est juste une histoire de goût.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Les gens debout, extrait du dernier album de Frédéric Zetoun, Les souvenirs de demain. Frédéric, tu nous as dit qu'un gros concert, un beau concert se préparait à Paris au mois de juin.
Le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique, voilà, une bonne façon de continuer à faire la fête de la musique.
Le Casino de Paris.
Casino de Paris.
Tu vas en progressant, tu as fait le Café de la Danse, tu as fait le Trianon.
On a fait un premier Casino de Paris en 2022. Et ça nous avait bien plu, on s'était dit qu'on avait bien chaud, on s'était fait une bonne frayeur,
ouais.
Et bon, on y retourne.
D'accord.
On y retourne parce que cette salle, parce qu'on aime ça, parce que cette salle, c'est vraiment c'est le musical à l'ancienne, et en même temps, il y a un rapport très très chouette avec le public. On est vraiment tout près du public, et puis voilà, c'est une belle salle, on rentre, cette espèce de grand hall avec du rouge partout, avec des fauteuils rouges et tout. Non, ça me fait rêver. Je suis tellement allé voir de gens là-bas quand j'étais gamin que ça me fait vraiment, ça me donne presque le vertige de savoir qu'on va y rechanter. Donc vraiment, non, je suis vraiment
bah, c'est une très bonne nouvelle. On viendra t'applaudir le
22
juin.
On vous attend tous, vraiment,
le 22
vraiment.
Juin, on sera au Casino de Paris pour t'applaudir.
Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Le capitaine me dit terre en vue. Il est 16h59. Effectivement, merci d'avoir été à bord de notre paquebot. Dépêchez-vous de rester jeune. Je rappelle les actualités culturelles pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Gaël Buswell est ce soir au Café de la Danse à Paris en première partie de JJ Grey et Mofro. Elle a aussi beaucoup de dates en province et à l'international que vous pouvez retrouver en ligne. Et Frédéric Zeitoun, donc ton album est sorti le 7 février, Les souvenirs de demain. Le Casino de Paris le 22 juin, on vient d'en parler. Et ton livre, Le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'Armeur chez HarperCollins, est disponible aussi.
Effectivement, je fais des pins aussi et des t-shirts. Enfin bon.
Des goodies. On se retrouve le mardi 25 février à 15h. Merci à tous.
Très merci à vous. Merci à vous.
Merci les amis. Merci les amis. À très bientôt.
Dépêchez-vous de rester jeune.